l'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac,
bon plan étudiant,
chronique,
débat,
coup de gueule,
clash,
rubrique culinaire,
actualité.
C'est tous les samedis à 10h,
le mardi à 15h,
le jeudi à
15h. D'accord, eh bien je vais vous éclairer.
Factualité sur Marmite FM
88.4.
Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes bien dans Factualité, l'émission des jeunes de l'UEVSQ. Vous êtes bien sur Marmite FM 88.4 et j'ai l'honneur de présenter cette émission avec Kim. Bonjour Kim.
Bonjour Corentin, et nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Caro, Eva, Noé, Clem, François et un invité spécial, un spectateur parmi nous, Daniel. Bonjour tout le monde.
Salut.
Bonjour.
Kim, tu as quelques actualités de la fac en cette fin d'année?
Certaines, oui, tout à fait. Le concours de l'éloquence, sa finale était le 18 avril dernier. Et nous félicitons Joaquinito Alogo de Obono qui a remporté le premier prix. Bravo également au deuxième et troisième prix qui ont eu Elsa Drossman et Bintou Camara.
Et on pourra quand même féliciter le quatrième, la médaille en chocolat, François. Bravo François quand même d'avoir participé.
Je n'ai pas été sélectionné.
On te félicite quand même. La troisième édition de la Tour Mélewatt va bientôt arriver, réservée le samedi 8 juin. Un beau festival arrive à Voisins-le-Bretonneux. 10 heures de musique, un village associatif et animation au programme. 20€ en pré-vente et 25€ sur place. Ensuite, nous avons également une nouvelle association de la licence des relations internationales, Sky Moon. Clem, tu peux nous en dire plus?
Alors oui, Saint-Quentin Model United Nations, c'est une association étudiante faite par des étudiants de relations internationales, comme tu l'as dit. Et en fait, l'objectif, c'est de promouvoir les relations internationales en faisant des débats sur des sujets d'actualité et même qui touchent des enjeux internationaux, comme le réchauffement climatique, ces choses-là. Et voilà, et le but, c'est de pouvoir débattre aussi dans d'autres langues, en anglais, en espagnol, en français. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et de prendre le rôle, en fait, d'un pays. Par exemple, je ne sais pas, sur le réchauffement climatique, si vous représentez la Chine, vous n'allez pas forcément être très... Enfin, ça dépend. Mais bon, voilà, le but, c'est de défendre les intérêts du pays et d'essayer de trouver un arrangement avec d'autres États. Donc ça s'appelle les Moon Model United Nations. En français, c'est modélisation des Nations Unies. En fait, c'est pour imiter ce qui se passe à l'ONU, tout simplement. Donc voilà, donc nous, l'idée, en gros, c'était de promouvoir ça parce qu'on pense que ça permet aux étudiants de mieux se d'être plus sensibilisés à tout ce qui se passe à l'international, en fait, tout simplement. Que ce soit accessible à tous aussi, que ce soit pas quelque chose uniquement pour les diplomates et l'élite, on va dire. Et donc voilà, et donc du coup on fait plein de petites actions comme ça, des débats, des pique-niques où on discute, des after-work aussi. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'à la fin de l'année, là, donc c'est le vendredi 24 mai, on va organiser un Moon Model United Nations à la fac, en fait, de Saint-Quentin, parce que c'est quelque chose qui se fait dans le monde entier, dans beaucoup d'universités, et on a envie aussi de promouvoir l'UVSQ. Et donc, du coup, vous aurez l'opportunité de pouvoir y participer, ça dure toute la journée, il y aura des conférences, et vous pourrez débattre en représentant un pays dans une commission. Donc, il y en aura une en anglais, une en français, une en espagnol. Je ne me souviens plus des thèmes, là, tout de suite dans l'esprit. Il y en a, je crois que celle sur l'espagnol, c'est tout ce qui est trafic de drogue. Donc, voilà, comment lutter contre la corruption liée à tout ça. et je crois qu'en anglais, c'est sur la sécurité internationale, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Et donc, du coup, voilà, si ça vous intéresse, l'entrée, c'est 5€ pour faire vivre l'association. Et vous aurez un petit déjeuner avec des croissants et des pains au chocolat qui vous accueilleront. Enfin, qui vous accueilleront. Qui...
si, si, t'inquiète, ce sera bon.
Qui seront là, quoi.
Des pains au chocolat mutants.
Et puis, le soir, on fera sûrement une soirée, voilà, tous ensemble, un peu informel, histoire de bien fêter la fin de l'année. Et on lance les inscriptions la semaine prochaine sur notre site Sky Moon. Si vous vous êtes intéressé, regardez sur la page Facebook de notre association. Donc ça s'écrit SQYMUN. Voilà, toutes les infos seront là et on lancera la campagne de communication là-dessus aussi.
Voilà, merci beaucoup.
Merci Kimberley. Et Clem, vu que tu avais la parole.
Et oui, je vais vous présenter une étude sur des jumeaux de la NASA qui a enfin été révélée. Chers auditeurs, aujourd'hui je vous emmène au 7e ciel. Enfin, plus précisément dans l'espace. Ah, l'espace, l'aventure, l'inconnu, le grandiose, nombreux sont ceux qui rêvent de le découvrir. Parmi ceux qui ont cette chance, il y a Scott Kelly, un ingénieur américain de 50 ans. Il vient de passer un an dans la Station Spatiale Internationale. La plateforme en orbite autour de la Terre est occupée par des scientifiques du monde entier, présent pour étudier cet univers si infini. Le 25 mars 2015, Scott Kelly s'envole pour l'ISS et laisse son frère jumeau, astronaute également, Mark Kelly, sur Terre comme référent génétique terrestre pour la NASA. Le but, observer les effets des longs séjours dans l'espace sur le corps humain. Mais alors pourquoi des jumeaux ? Le journaliste Andy Feinberg explique. Les chercheurs souhaitent comparer les réactions moléculaires et génétiques du corps de Scott, provoquées par le changement d'environnement, avec son frère Mark, car ils ont essentiellement le même patrimoine génétique. Pas de doute, toutes les différences constatées sont des conséquences directes du voyage. Depuis le retour de l'explorateur en 2016, 84 chercheurs de 12 universités différentes ont inspecté dans les moindres détails les évolutions du corps de Scott. Après diverses analyses d'urine, de sang et de sel rapportées de l'espace par des vaisseaux ravitailleurs, et oui, ça paraît complètement surréaliste, et après plusieurs tests de performance physique et cognitif, le bilan est plutôt pessimiste. La Twin Study, autrement dit l'étude des jumeaux, publiée jeudi 11 avril dans la revue Science, décrit ses résultats. Entre problèmes de vue, perte de masse corporelle, affinement du squelette et la sensation d'avoir chopé une grosse grippe à son retour, notre cobaye a nettement décliné. Si bien que la paroi de son artère carotide s'est épaissie durant le voyage. Ce phénomène est un des indicateurs du risque de maladies cardiovasculaires comme l'AVC. Cependant, les scientifiques ont fait une étrange découverte. Les télomères, c'est-à-dire l'extrémité des chromosomes de Scott, se sont allongés. Phénomène inhabituel, car avec l'âge, les télomères ont plutôt tendance à se raccourcir. Un petit voyage dans l'espace serait-il la solution miracle contre la vieillesse ? Enfin, ne rêvez pas trop. Les chercheurs pensent expliquer cela par les radiations importantes dans l'espace, le stress ou bien une inflammation. Rien de très sympathique, ma foi. Il faut tout de même savoir que la majeure partie des changements disparaissent dans les 6 mois, une fois retournés sur Terre. Aujourd'hui, 90% des gènes de Scott sont revenus à la normale. Cette étude inédite est tout de même une avancée. Steven Platz, le directeur adjoint du programme de la NASA consacré aux missions habitées, annonce « Cela aide la recherche biomédicale spatiale et pourrait permettre des voyages plus sûrs vers Mars en les préparant mieux ». Les spécialistes ont désormais une idée plus précise des effets sur le corps humain après les longs séjours dans l'espace. La NASA prévoit d'envoyer le tout premier humain sur Mars pour 2033, après un vol de 2 à 3 ans. D'ici là, espérons que la recherche continue d'avancer.
Merci Clem, et donc avec un peu de chance, Major Tom est encore vivant ? T'as pas la ref, d'accord, très bien. Bah, ouais, Major grave. Tom, David Bowie, Space Oddity.
Ah, ok.
Space Oddity, je crois, c'est ça, ouais. Un astronaute, voilà, qui disparaît, et puis...
Et bah, peut-être,
devient,
peut-être.
Et peut-être qu'il est encore vivant. Les radiations l'ont peut-être sauvé. Des questions pour Clémence ?
Tu aimerais aller dans l'espace, toi ?
Honnêtement, oui et non. C'est un peu compliqué.
Oh, merci. Non, mais... la question n'était pas ouf. La réponse, encore moins.
T'as juste fait la dans le principe, ça a l'air vraiment, vraiment passionnant. Et je pense que de mon vivant, je connaîtrais des gens qui y seront allés. Peut-être pour le tourisme ou on ne sait pas encore. Hein. C'est peut-être ambitieux, mais c'est possible. Mais je pense que je suis quand même née trop tôt. Enfin, je pense que si j'étais née, dans 200 ans, peut-être que ce serait quelque chose de plus. Enfin, en vrai, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aurais envie d'y aller si c'est quelque chose d'habituel, en fait, et pas d'extraordinaire. Ouais. Voilà.
Comme
s'il
n'y
ait pas autant de changements sur le corps humain, etc.
Oui, Noé ?
Bah, il y a déjà une entreprise chinoise qui avait projeté d'envoyer des gens en vacances sur la Lune. Donc,
c'est sympa.
Alors,
pas
déjà,
très chaud.
Si tu reviens de tes vacances avec un squelette affaibli et un risque d'AVC, enfin. L'action risque de chuter, quoi.
Oui, voilà, avoir le prix et avoir les conséquences aussi.
Ouais, c'est ça. Donc, pour rester dans le domaine scientifique, Caro, à ton tour.
Ouais, merci, Kim. Alors, moi, je vais vous parler d'essence. De l'être humain. Donc, l'être humain, allez, petit tour de table, mais bon, voilà, je vais pas vous faire offense. Tout le monde les connaît.
Qui sont des êtres humains ici ?
Non, mais quels sont les cinq sens ?
Il est resté dans les chameaux. Quels sont les cinq sens ?
Alors, il y en a sept.
D'accord.
Les
cinq sens, c'est. Alors, tu as l'ouïe,
le toucher, le goût,
l'odorat.
Voilà. Et il nous en manque forcément. Et la vue, merci.
Et j'avais vu un papier qui disait, enfin un reportage qui disait comme quoi il y aurait peut-être un sixième, et je pense que tu vas peut-être parler de ça. Ouais. Tout ce qui est par rapport à la prémonition.
Tout ce qui est trop paranormal.
Je sais qu'il va m'arriver un truc, tu vois. Je sais que je serai président de la France.
Ouais, ouais. Sentir les choses arriver avant, quoi. Comme les animaux.
Bah, on n'est pas dans la merde.
Ouais. Pariez-le maintenant, que François président de la
Noé, tu dis, on aurait sept sens.
Bah, il me semble qu'il y avait une étude qui disait que le sens de l'équilibre. Comptait aussi comme un des sens du corps humain, en plus de celui d'avoir conscience qu'on est quatre membres.
Ah, on est quoi ?
qu'on ait quatre membres.
En plus, c'est
Fira, main et U.
tu touches à ma chronique. Donc, bon, un petit rappel historique sur justement ces cinq sens. Donc, ça a été théorisé depuis 2300 ans maintenant. Donc, les cinq sens connus doivent leur définition à Aristote. Aristote les a catégorisés dans son traité De Anima, de l'âme. Et donc, ce philosophe estime qu'un sens, c'est une capacité à détecter de l'information à propos de notre environnement. Donc, chez Aristote, l'âme, c'est un peu la fonction vitale par excellence. Aristote, lui, parlait des sens externes. Et il y a un consensus scientifique depuis quelques années qui vient à dire que nous avons des sens externes, mais aussi des sens internes. Et nous aurions quatre sens internes. Donc, ce qui fait que nous aurions neuf sens au lieu de cinq. Donc, toi, tu t'approchais, tu disais qu'on en aurait sept, mais nous en avons neuf. Et donc, plus de 2000 ans après Aristote, un docteur spécialiste des sens à l'université Pierre et Marie Curie, monsieur François Lecor, a rédigé la thèse intitulée « Distinguer les sens, individuation et classification », donc en 2014. Et donc, il dit qu'il existerait quatre autres sens dits internes que nous utilisons. Donc, je vais citer ce docteur. Il explique que l'expérience que nous avons de notre monde ou de notre environnement direct n'est pas unisensorielle, mais bien plutôt multisensorielle. Et donc, il affirme que la perception auditive peut être fortement influencée par la perception visuelle, ou encore que la perception auditive peut influencer notre perception gustative. Et donc, ce docteur a dit que la science avait trop longtemps négligé les sens qu'on appelle internes au profit des sens externes, parce que ceux-ci sont observables. Et donc, je vais donc vous donner le nom de ces quatre sens internes. Donc, il y a la thermoception, la nociception, la proprioception et l'équilibrioception. Donc, je reviens dessus, sur chacun des termes. La thermoception, c'est la capacité à ressentir les températures. La nociception, pour vous, ce serait quoi ?
Percevoir la nuit.
Non. La nociception, donc, c'est ce qui permet de ressentir la douleur. La proprioception, oui, c'est la capacité donc, à localiser nos membres.
Dans la cuisine.
Et donc, enfin, l'équilibrioception. Ça coule de source. Ouais, c'est celle qui me permet de nous maintenir en équilibre.
Il faut mettre ception derrière plein de mots, en fait, pour que ce soit considéré comme un sens, non ?
Bah, là, en l'occurrence, ouais, pour ses sens internes, ouais. Et donc, si ces facultés sont une évidence pour tous, il est bon de savoir que désormais, celles-ci sont considérées comme des sens à part entière. Oui, Clémence.
À un moment donné, tu disais, on a l'impression qu'on substitue certains sens à d'autres. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a des sens qui sont plus valorisés que d'autres, alors qu'au fond, ils ont tous leur importance. Mmh. Je ne sais pas si ma question est en rapport avec cette chronique-là, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, quand on mange quelque chose...
On dirait la phrase de podcast.
Vas-y.
Je pense que ça va marquer, mais les canapés, mais c'est vraiment cool.
Quand on mange quelque chose, en fonction de l'aspect que ça a, tout de suite, ça va changer quelque part le goût en fait qu'on peut en avoir. Par exemple,
c'est ce que disait Kat.
Voilà, ouais. C'est ce que tu disais. Et il y a un restaurant à Paris. Je vais pas dire le nom parce qu'on va pas faire la pub. Et en plus, je me rappelle plus. Mais
chez Clémence, les c'est pas du tout chez moi. Hein.
Non, je crois que ça s'appelle Dans le Noir, je crois. Bref.
Oui, parce
en gros, c'est un restaurant où tout est dans le noir. En fait, les gens mangent dans le noir. Du coup, ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Et en fait, du coup, ils se rendent compte qu'ils mangent des choses qui, de base...
Ne mangeaient jamais
voilà.
Parce qu'ils...
Exactement. Bon, en fait, voilà. Le principe, c'est parce que c'est servi par des personnes qui sont malvoyantes, etc. Mais ça joue quand même au niveau des perceptions.
Oui, voilà. Oui, bah, c'est ce que je disais. Voilà. C'est l'expérience que l'on a de notre monde, elle n'est pas unisensorielle, elle est multisensorielle. C'est ce que disait donc le docteur Monsieur Lecor.
Je voulais dire ça juste par rapport au fait que la vue est quand même très très mise en valeur par rapport au reste, alors que voilà.
Oui, Kim.
Et qu'est-ce que tu penses du fait que on dit que les animaux ont le sixième sens parce qu'ils peuvent sentir des choses qui vont arriver et pas les humains ?
Ah bah oui, bah ça c'est impropre aux animaux et c'est ce qui fait que voilà c'est il y a une diversité dans les êtres vivants, dans les capacités qu'ont chacun de ces êtres à justement à appréhender leur environnement. Et c'est une bonne chose qu'on soit tous différents, que les animaux soient différents les uns des autres.
Ouais, c'est pratique. C'est pratique. Non, mais si, parce qu'en vrai, si tu vois du coup des animaux courir ou voler dans une bonne direction, ça veut dire que tu les suis parce qu'il y a peut-être une vague qui arrive ou un cyclone, ce genre de choses. C'est comme ça que beaucoup de gens ont survécu au tsunami en Polynésie.
Donc, comme il y a des animaux qui détectent les infrarouges, il y a des animaux qui détectent les champs magnétiques.
C'est pas aussi parce que peut-être lié au, par exemple, il y a des animaux qui ressentent énormément tout ce qui est vibration. Enfin, je pense notamment aux baleines, aux dauphins, qui ont des, et justement qui du coup, bah, c'est pas forcément de la prémonition, mais c'est juste qu'ils ressentent peut-être les secousses et qu'ils savent, j'ai pas peut-être.
Donc suivons les animaux en cas de catastrophe.
Merci Caro, et donc on va continuer sur notre planète que nous pouvons donc sentir, toucher, même goûter, mais lécher. Surtout avec François, on va la voir cette planète.
Ouais, grâce à Netflix. Dans le vacarme tonitruant entourant la sortie de l'ultime saison de Game of Thrones, il est difficile pour tout autre programme de se faire une place à côté de l'imposant Trône de Fer. Cependant, une série documentaire sortie sur Netflix au début du mois a reçu bon nombre d'éloges. Cette série, c'est Our Planet, traduisez Notre Planète pour les francophiles. Une succession de 8 épisodes dans lequel le narrateur, David Attenborough, historien spécialiste de l'histoire naturelle, emmène le spectateur dans un voyage aux quatre coins du globe. Une véritable odyssée à la découverte de faunes et de flores menacées par les bouleversements environnementaux. Chaque épisode est consacré à un milieu naturel. On navigue ainsi entre monde marin, région forestière ou désertique, jungle, et on redécouvre contemplatif la beauté de la nature. En fait, le reportage nous montre que chaque espace ou chaque région où faunes et flores entrent en interaction obéit à une osmose, une partition, où chaque élément, colossal comme une baleine ou minuscule tel le plancton, est nécessaire à l'harmonie environnementale. Alors, il y a ces scènes qui vous prennent littéralement aux tripes tant le montage des séquences est fait pour susciter de l'émotion. Un ours blanc tuant un bébé phoque juste devant la mère de ce dernier. Cette proie d'une horde de fauves réduite à l'agonie en pleine savane. Mais c'est en ce sens que la nature est si belle, par sa cruauté. Et puis, comment parler de ce documentaire sans parler de la qualité de sa réalisation ? Tout, mais vraiment tout est somptueux. Du bal des baleines, des bancs de poissons, de l'envol simultané de milliers d'oiseaux, au plan de paysages à couper le souffle. De l'Antarctique à la savane sauvage, des forêts aux abysses, on voyage en permanence et cela participe au propos de fond de la série. À travers cette odyssée planétaire, la série cherche à faire prendre conscience de la cohésion millimétrée de chaque écosystème. Des écosystèmes qui sont désormais menacés par les activités humaines, comme la surpêche, la pollution atmosphérique ou la déforestation pour ne citer qu'elles. Avec Our Planet, on contemple une ode à la nature avec tout ce qui compose cette dernière. Une série qui permet de saisir encore plus l'intérêt de protéger notre patrimoine naturel.
Merci François. Est-ce que certains d'entre vous ont vu cette série ils peuvent nous en parler, Caro
Moi j'ai juste vu le premier épisode.
Et qu'est-ce qu'on a pensé justement?
Ouais, qualité des images. Comme l'a dit François, il y a vraiment une... C'est une série de qualité puisqu'elle dépeint, enfin elle montre la faune dans son environnement naturel et toutes les implications que par exemple moi je me rappelle une séquence j'ai plus le nom de l'animal en question mais en gros voilà c'est il a une séquence où voilà ils étaient en groupe et il y avait des prédateurs donc des hyènes qui étaient aux aguets et qui guettaient le moment propice pour justement attaquer les bébés de l'animal dont je ne me rappelle plus
ça
le nom.
Des gnous, je crois, voilà, la séquence. Ouais. Et justement, où à la fin, la mère, elle défend, enfin, il y a quelqu'un
c'est
qui
ça.
Défend le petit.
Ouais.
Mais ça montre, mais c'est vrai, une vraie cohésion. Et puis, ce qui est bien, c'est comme tu dis, c'est que même au niveau de la réalisation, genre, les deux font corps. C'est-à-dire qu'on voyage dans des endroits qui sont sublimes, on voit des choses sublimes.
Ouais.
Et la réalisation, mais c'est hallucinant. Enfin, il y a un progrès qui a été fait. C'est le matos qu'il devait avoir pour filmer tout ça, c'est incroyable. Parce qu'il y a des scènes, on a vraiment l'impression que ça a été filmé à côté de l'animal. Alors que c'est impossible. Et je me demande même si des fois il n'y a pas des images de synthèse, parce que c'est pas. Enfin, mais c'est pas des images de synthèse, mais c'est justement ce qui est bluffant. Quoi.
Ouais. Et je me rappelle aussi d'une séquence de flamant rose nain. Ouais. Et c'était. Enfin, tu vois en fait l'étendue de la vidéo, mais c'est trop beau, c'est superbe. Tu te dis, mais. Comme tu viens de dire, c'est waouh, le matos utilisé pour réaliser ce plan. Et c'est vraiment. C'est magnifique.
Ah, puis ça montre la beauté de la chose et que et c'est ça qui est bluffant, c'est qu'on prend vraiment conscience que tout a un sens. Bon, après, on peut en prendre et en laisser parce que c'est hyper partisan, mais c'est quand même hallucinant. On se rend vraiment compte que même un animal, c'est loin même d'être un animal. Il y a vraiment une part de conscience qui est assez incroyable. Quoi.
Ouais.
Clem, t'avais quelque chose à dire ?
Oui, moi je voulais juste te demander, ça a l'air passionnant et je pense que je regarderai.
Mais en quoi cette série a quelque chose de particulier que tous les autres films faits sur ces thèmes-là, ou reportages, ou... Enfin, je pense à La Marche de l'Empereur, je pense à... Voilà, il y a énormément de films qui ont même eu un gros succès, ou énormément de reportages de Yann Arthus-Bertrand, de... Voilà. En quoi cette série-là, elle a quelque chose de révolutionnaire ou quelque chose de particulier selon toi ?
Le jour où Yann Arthus-Bertrand sera un écolo convaincu, on en reparlera. Et
Parle juste du travail, là.
Non, il y a pas de... Non, parce que tu le cites, non, mais c'est une petite vanne, c'est un pic méchant. Mais c'est, non, elle a pas quelque chose d'incroyable par rapport aux autres. Ce qui est très bien avec cette série, c'est que, bah, très clairement, la réalisation, elle est ouf, enfin, je pense. Et puis, ça... Et puis, c'est très bien réalisé, puis on... En soi, c'est un documentaire classique, mais ça regroupe plein d'aides. Tu parles de La Marche de l'Empereur, tu vois, mais ça parle que d'un, par exemple, d'un animal. Là, ça parle vraiment de plein de choses. Ça regroupe énormément de choses, et puis ça permet vraiment de prendre conscience des répercussions des activités humaines. Enfin, puis je sais pas, genre, il y a des plans que je regarde beaucoup de reportages animaliers, et vraiment, enfin, il y a des images qui sont jamais vues, puis c'est super beau, et puis il y a vraiment quand je parle de réalisation, c'est même juste il y a des plans, c'est même pas une question de matos, c'est une question qu'ils ont vraiment eu de la chance, parce qu'il y a par exemple, tu vois des animaux que tu peux presque jamais voir. Je pense notamment à tout ce qui est léopard, des neiges, ces trucs-là qui sont en voie d'extinction, et ils ont eu plein de plans où il y a plein de scènes avec, enfin, c'est super beau. La série est forte dans le sens où c'est pas là pour faire vous avez vu, c'est triste, ces animaux. Ils expliquent vraiment, enfin, on comprend toute la logique de certains animaux, notamment la façon dont ils pêchent, enfin, c'est, et on dit mais ils sont hyper ingénieux, quoi, enfin, c'est super bien travaillé, et je pense que c'est ce qui fait ça. Après, oui, ça reste un reportage animalier, quoi.
Et tu l'as consommé en combien de temps, cette série?
J'ai pas encore fini, j'en suis à quasi fin.
D'accord.
Oui, Kao.
Après, moi je pense que voilà, le fait que ce soit sur Netflix, ce serait peut-être et que ce soit en tendance du moment, vu que c'est très récent, ça pourrait amener les utilisateurs de Netflix à consommer d'autres choses que des séries d'action ou autres,
et casser le cliché du reportage Arte animalier ou
voilà.
France 5,
c'est
rien,
ça c'est ça, c'est amener un autre public à consommer ce genre de séries documentaires.
Et puis un truc qui est assez intéressant, j'y pense là, l'introduction du film, elle commence sur le fait que l'homme ait découvert la Lune. En mode, on a regardé à l'extérieur. Et en fait, je pense que ce film-là, comme cette série, comme d'autres, comme tous les reportages de Manier, amène à regarder mais la richesse qu'a la Terre. Parce qu'il y a des... au-delà même de voir de la faune et de la flore, ça te donne envie de voyager. Il y a des plans, mais t'as envie de sauter dans un avion et de dire, allez, c'est parti.
Ouais, c'est en gros. Ouais, c'est...
Et puis même, au niveau de la conscience environnementale, moi qui suis pas un écologiste de la première heure, ça fait quand même réfléchir. Voilà.
C'est ce que je voulais dire, c'est faire prendre conscience à ceux qui sont peu regardants de ces thèmes-là, de justement de la richesse de notre planète, et d'agir en conséquence face à justement cette tendance du notre planète, il faut la préserver, et c'est avoir un autre point de vue, vraiment focalisé sur la faune et la flore.
Et puis oui, et puis le fait que ce soit ça sur une plateforme aussi, je vais pas dire mainstream parce que c'est, une plateforme aussi grand public, aussi populaire que Netflix, ça peut amener de la visibilité à certaines causes, et voilà. La série est faite avec en partenariat avec la WWF, et à chaque fin d'épisode, ils amènent allez sur notre site pour voir comment on peut aider la planète.
J'ai vu qu'il y avait aussi certaines scènes qui auraient été violentes. Apparemment, je suis tombée sur des articles comme quoi, apparemment, il y a une scène avec des morses qui aurait choqué énormément les spectateurs.
Ce qui s'appelle l'environmental porn, je crois, dans le sens où il faut vraiment choquer. Et c'est une scène en fait où il y a un morse qui est, où en fait il montre que les morses, vu qu'avec le recul de la banquise et le fait qu'ils aient plus d'espace des fois pour se mettre, ils s'entassent sur des petits îlots qui des fois ont des positions. Ont une géographie qui fait qu'il y a des espaces plus surélevés que d'autres, il y a des falaises, et que le morse, vu qu'il voit pas très bien en fait, et il distingue que l'eau, en fait il sent qu'il y a de l'eau en dessous de lui, et il voit pas le gouffre, et il saute, et il y a des images où on voit le morse carrément qui saute dans lui et qui meurt et tout, et voilà. Mais c'est comme ces plans qu'on verra tous et qu'on va tous être amené à voir de plus en plus d'ours qui nagent alors qu'il n'y a pas de banquise et tout.
Un genre de séquence où je vais pleurer. On va changer de sujet. Merci beaucoup en tout cas.
On change totalement d'univers, un film que beaucoup attendent depuis un moment. Alors, Eva, Noé, parlez-nous du dernier Avengers, sans spoil.
On va faire de notre mieux.
Compte là-dessus.
Vous n'êtes sûrement pas passé à côté du phénomène de cette semaine, la sortie en France du quatrième et dernier opus de la saga Avengers. Le film se titre solennellement Endgame, la fin du jeu.
Et la boucle est enfin bouclée. Et en 10 ans, on pourra dire que le Marvel Cinematic Universe, MCU si vous êtes pressé, nous en aura fait voir de toutes les couleurs. 10 ans, c'est 22 films répartis en 3 phases, 5 courts-métrages, 11 séries télévisées et plus d'une centaine de personnages. Une industrie bien huilée, la plus lucrative de son temps et qui, qu'on le veuille ou non, constitue l'une des plus grandes révolutions du cinéma d'action. On peut lui reprocher un cruel manque de diversité, qui se corrige dans les derniers films, des méchants fades, qui se corrigent dans les derniers films, ou des scénarios redondants, qui ne se corrigeront décidément pas. Mais certainement pas un manque d'ambition. Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte la dernière décennie, le MCU est donc une succession de films à gros budget mettant en scène les super-héros tirés des bandes dessinées de la maison d'édition états-unienne Marvel. Et le film est l'apothéose de cette industrie, le film de super-héros ultime rassemblant plus d'une trentaine de types en collant sur 3h15.
Aujourd'hui, nous vous proposons avec Noé une petite critique du film. On va essayer de pas trop mettre de spoilers, voire de pas en mettre du tout. Après, nous avons des avis assez différents, vous le verrez plus tard.
Alors, on a dit qu'on essaierait de pas spoiler, hein. Mais par contre, je vous préviens tout de suite, on divulgâchera Infinity War sans aucun état d'âme, vous êtes prévenus.
Alors, commençons. Tout d'abord, j'ai trouvé que ce film se dénotait très largement de son prédécesseur, Infinity War. Endgame est déjà beaucoup plus comique, ce qui est paradoxal quand on sait à quel point l'univers est en souffrance depuis le fameux claquement de doigts de Thanos. Pour rappel, à la fin d'Infinity War, donc, Thanos, le titan fou, récupère les 6 pierres d'infinité, des artefacts d'une puissance infinie, et malgré les efforts de nos héros, parvient à exécuter son iconique claquement de doigts, éradiquant ainsi 50% de toute vie dans l'univers.
Il est vrai que dans ce film, les blagues font souvent mouche et sont ancrées dans l'action, il était enfin temps, et Endgame assume surprendre. Et par surprendre, je veux dire m'arracher la mâchoire tellement je ne m'y attendais pas. Mais surtout, surtout, ce film a réussi à nous offrir une réplique culte, et une scène bien 10 fois plus classe que la duplication de Doctor Strange dans Infinity War.
Ce film est très très dépendant de la FX qui est magnifiquement réalisée, qui nous montre une esthétique très très poétique. Et pour ma part, ce qui rend encore plus poétique le film, c'est que les plus grosses esthétiques sont réalisées sur des personnages qui ont été mis de côté pendant très très longtemps par le MCU. Et en fait, on s'y attend tellement pas. Et voilà, ça rend. Je veux dire, comment dire, les scènes les plus poétiques, c'est pas Captain America, c'est d'autres personnes qui ont vraiment été, pour moi, bafouées, je vais dire, bafouées pendant très très longtemps. Et enfin, elles ont beaucoup de reconnaissance et vraiment beaucoup dans ce film. Donc je suis contente.
Et ça, en fait, on peut vraiment lui accorder, c'est que Endgame accorde une vraie place à des personnages qui, jusqu'ici, étaient franchement laissés dans l'ombre de nouveau. Mais c'est aussi là que le film pêche en premier lieu. C'est impossible, même en 3 heures, de rendre pleinement justice à 30 super-héros plus puissants les uns que les autres. Il a fallu faire du tri. En fait, si votre personnage préféré n'est pas en gros plan sur la fiche du film, il n'aura le droit qu'à 3 minutes d'écran grand maximum. C'est dans Endgame que les survivants, à savoir Tony Stark, Steve Rogers, Hulk, Thor, Hawkeye, Natasha Romanoff, Ant-Man, Rocket et War Machine, se lancent dans une course avec la montre pour tenter de remettre la main sur ce qui leur permettra de ramener les disparus à la vie. Voyage dans le temps, nouveau gant de l'infini ou encore univers parallèle, dimension de poche, Captain Marvel ou bien la très populaire Ant-Man End, les théories de fans ont fleuri sur internet depuis la sortie d'Infinity War pour savoir comment le héros atteindront leur but ou même s'ils y parviendront. Et du coup, la première partie du film... Là, tu peux te boucher les oreilles. La première partie du film se constitue d'une succession d'épisodes dont les événements se devinent un peu trop facilement et certains personnages sont sacrifiés au profit d'une bonne blague. L'inévitable bataille finale a ses points forts, mais reste assez générique, voire tombe dans le fanservice pour les motifs précédemment cités. Je dois l'avouer, j'ai quand même été déçu par Endgame.
Alors, pour ma part, je trouve qu'il y a 3 grandes parties dans ce film. Alors, sur les 3 parties, du coup, il y a une partie et demie qui est vraiment très décevante parce qu'elle est très longue, en fait, elle est assez lente. Et il y a une partie qui, pour moi, rattrape tout le film, et c'est pourquoi j'ai trouvé que ce film était vraiment génial. Il est moins iconique que Infinity War, ça c'est sûr, mais il... Enfin, vous ferez votre avis, hein, mais il y a une partie, elle est tellement... Elle restera vraiment dans les esprits. Aussi, ce film est sincèrement émouvant. Ce ne sont plus les mêmes larmes qui sont tirées des yeux des spectateurs, à savoir est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils vont pas mourir. Tout a un goût différent, en fait, vu que c'est la dernière fin de tout. Et donc voilà.
Enfin voilà, on se souviendra pas forcément d'Endgame comme on se souviendra d'Infinity War, mais les deux sont bel et bien indissociables et offrent une digne conclusion à une aventure qui a commencé quand j'avais 7 ans. La machine continue de tourner, mais la loi des contrats fait que les engrenages ne sont pas forcément les mêmes après 10 ans. Cette fin est d'autant plus glorieuse que c'est là la dernière occasion que nous avons de revoir Stan Lee, le créateur de tout ce petit monde, dans l'une de ses proverbiales apparitions dont il nous a gratifié tout au long du chemin. Ne le ratez pas, rien que la nostalgie en vaut la peine.
Merci à vous deux, et juste une question avant toi Clem. Est-ce qu'on peut espérer aussi, comme dans les bandes dessinées, il y a beaucoup d'arcs narratifs dans les plusieurs univers, est-ce qu'on peut espérer qu'ils refassent des films, mais avec un différent arc narratif tout simplement, qui repartent sur Avengers, mais...
En fait, ils continuent déjà de programmer les films, c'est ce qui ruine un petit peu le suspense. Est-ce qu'on se demande vraiment si Spider-Man est vraiment mort quand on sait que Spider-Man 2 sort dans un mois? Bon, mais en fait...
Même Black Panther aussi va bientôt sortir, Black Widow pareil.
On va pas tout lister, mais, mais tous ces films, en fait, c'est ce que je dis, l'industrie est beaucoup trop lucrative, ils arrêteront jamais les Avengers. Après, comme je le laissais entendre, l'équipe a changé, on peut pas garder Robert Downey Jr., enfin il y a un moment où il va mourir, l'acteur va mourir, on peut pas laisser... Calmez-vous. La différence entre les acteurs...
Après, c'est pas forcément un problème, regarde, enfin, James Bond... Tu vois, c'est
oui, mais
jamais
le bon. Il y a qu'un seul Iron Man, tu te calmes tout de suite.
C'est ça,
l'acteur, tu vois.
Tu peux
ils
pas changer.
Encore changer là maintenant.
Là, tout le principe du MCU, c'était de construire sur 11 ans. C'était de rester aussi réaliste que possible en gardant des acteurs tout le temps. Si tu changes un acteur, que tu décides de refaire apparaître un personnage dont t'avais déjà, à qui t'avais déjà offert une fin ou quoi que ce soit, ça brise le truc.
D'accord. Et Clem ?
Oui, on parlait du coup de la fin d'Avengers. Toi, tu imagines que non, mais moi, je pense que oui. Et justement, je pense qu'au bout d'un moment, ce schéma manichéen de toujours montrer le bien, le mal, les super-héros qui sauvent les gens, etc. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, ça touche à sa fin et je crois qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Après, il faut admettre qu'ils ont quand même, comme tu l'as dit au début de ta chronique, essayé de se renouveler avec plus de diversité, plus de mettre plus en valeur certains héros qui étaient plutôt mis de côté. Mais voilà, moi je pense qu'il y a quand même des choses à changer au niveau de tout ce qui est fondamental, enfin, au niveau de l'histoire et tout, peut-être évoluer autrement, s'ils veulent pas tomber dans une forme de... d'être toujours surtout un peu dans la répétition. Quoi.
Surtout que les changements étaient assez longs quand même. C'est-à-dire que, je sais pas, je parle par rapport à la place des femmes, parce que c'est ce qui est tendance et tout. Ça a quand même pris beaucoup de temps, je trouve, parce qu'il y a toujours beaucoup de temps entre les films. Donc, mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut une certaine fin. Après, une certaine fin, nommez pas un petit début à quelque chose, quoi. Mais bien sûr, ce sera jamais aussi grand que la saga des Avengers.
Sans la fin de quelque chose, c'est pas toujours le début de quelque chose d'autre. si on parle à la philo.
Oui.
Juste à tous les deux, votre personnage préféré, et est-ce que vous êtes content, déçu, triste de ce qui s'est passé ou pas?
Pour ma part, mon personnage préféré, c'est Doctor Strange. Parce qu'il est joué par mon acteur préféré aussi, donc ça aide beaucoup. Mais là, en fait, comme Doctor Strange avait déjà eu son moment de gloire dans Infinity War, ils ont décidé de le laisser de côté. C'est ce que je dis, il doit avoir 3 minutes d'écran. Ils ont décidé de le laisser de côté pour celui-là et offrir plus de place à des personnages qui le méritaient davantage. Enfin, non, mais qui auraient... voilà quoi, on partage.
Oh, c'est mignon. Eva ?
Moi, j'aurais tendance... En fait, j'en ai deux. Ce serait Thor et Barton. Donc Barton, c'est... œil de faucon, comment il est trop nul son nom. Donc, on va dire que je vais prendre Barton. J'ai vraiment kiffé ce film par rapport à ça. Et je suis très très heureuse de ce qui arrive à ce personnage. Ça veut pas dire qu'il lui arrive que du bien. C'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce film. C'est... Voilà, quoi, Barton, il a été refoulé pendant plein de films. On va dire qu'il est... Enfin, c'est un personnage quoi, qui existe. Quoi.
Merci à vous tous de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci à vous les auditeurs. C'était la dernière émission enregistrée. Voilà, on est un peu tristes tous.
Merci
à Nouradine.
Merci beaucoup Nouradine d'avoir proposé ça.
Merci au monteur. C'est la dernière émission enregistrée, mais nous ferons un direct en juin. Donc, n'hésitez pas à suivre Marmite FM et Factualité sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous tous et à bientôt en juin.
À bientôt.
Au revoir.
Factualité.
L'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac.
Bon plan étudiant.
Chronique.
Débat.
Coup de gueule.
Clash.
Rubrique culinaire.
Factualité.
C'est tous les samedis à 10h.
Le mardi à 15h.
Le jeudi à 15h.
D'accord. Eh bien, je vais vous éclairer.
Factualité sur Marmite FM
88.4.